Bien, on y
va.
Bonjour et merci de braver la pluie la première fois depuis que ces imaginales ont commencé, et puis aussi de faire preuve à l'heure de la messe de détermination pour venir participer à ce café littéraire. Alors, comme vous l'avez vu, nous avons quatre auteurs ici présents. Ces quatre auteurs sont tous représentatifs, non pas d'un courant, ce n'est pas du tout en ces termes que les questions se posent, mais sont représentatifs d'une façon de s'intéresser à d'autres mondes, d'autres univers, d'autres sociétés que la société occidentale, en tout cas actuelle, classique, européenne. Et c'est ça qui m'a paru intéressant en les rassemblant, qu'il s'agisse de Than Van Tran Nhut, qui est française mais d'origine vietnamienne, et on verra que ça a évidemment un rôle dans le choix de ses personnages et de ses histoires, Noureddin Seoudi, qui lui aussi est français mais est né à Alger, ce qui donc évidemment par l'histoire et la tradition familiale lui donne un autre éclairage sur la fantaisie, et ça explique aussi le type de fantaisie assez différente de ce qu'on voit d'habitude qu'il écrit. Nous avons Fabien Clavel, un habitué des imaginales quand même depuis déjà quelques années. Fabien Clavel qui publie dans à peu près tous les genres de l'imaginaire, mais qui s'intéresse beaucoup à l'histoire. Et tout particulièrement, il nous expliquera pourquoi, à l'histoire des pays slaves, et très particulièrement l'histoire de la Hongrie, si je ne me trompe pas. Ma géographie étant parfois hésitante, bon, mais pas tant que ça. Et puis, évidemment, last but not least, comme on dit, pour faire chic, même dans nos provinces, Didier Deninx, d'origine belge. voilà, je ne voulais pas être désagréable, mais nos collaboratrices ont eu quelques soucis avec le XK, ou le KX plus exactement, et donc j'ai veillé à ce que l'orthographe soit parfaitement respectée. Donc c'est important, nos noms et nos prénoms, des fois on se bat pour les faire respecter, alors c'est une chose à laquelle évidemment on comprendra que je suis attaché. Donc Didier Deninx, lui écrit du roman noir, s'intéresse aussi à l'histoire, a beaucoup traité entre autres l'histoire de France et ses pages sombres de la Deuxième Guerre mondiale à aujourd'hui. Et puis, il y a quelques années, il s'est intéressé, un peu les hasards, il nous le dira, à d'autres univers, à d'autres sociétés, parfois plus lointaines. Et c'est ce qu'on va aborder tout à l'heure. Donc, on va peut-être commencer tout simplement par un extrait pour entendre la voix d'un auteur. Donc, Sine, le dernier poète, Noureddin Seoudi, c'est le premier tome d'une trilogie. Je ne me trompe pas. Bien. Parce que parfois, un auteur nous promet une trilogie et finalement, il a encore des choses à dire et il nous fait une tétralogie. Alors, je préfère vérifier.
Le tome 3 est là. Hein.
Je sais, mais parfois, l'auteur nous dit « Non, non, finalement, je fais un tome 4. » Donc, je reste prudente. Donc, une trilogie et on en restera là. Ça sera ensuite un autre univers, en tout cas, d'autres histoires. Felden recueillit Imrou quand il avait 4 ans et Ransa 5. Et cela faisait maintenant 10 années qu'ils vivaient ensemble dans le verdoyant pays des rivières où le mage avait de fidèles amis. Le Naharina était une région peu accessible en raison des innombrables rivières et ruisseaux qui le traversaient dans tous les sens. Il fallait être un Naharin de naissance pour toujours s'y retrouver. Même Felden, après de longues années passées dans ce pays, et tout mage qu'il était, s'égarait souvent. Les histoires de voyageurs disparus étaient nombreuses, et il n'était pas rare de croiser certains d'entre eux, devenus fous dans ce labyrinthe d'eau et de verdure. La plupart des voyageurs préféraient d'ailleurs le contourner sur des centaines de miles pour ne pas avoir à le traverser. Le Naharina était bordé à l'ouest et à l'est par deux chaînes montagneuses, le Nasakan et le Nusakan, dont les cours d'eau se déversaient dans un même et immense bassin. La rencontre des eaux avait formé, au fil des siècles, un pays où les rivières s'entrelaçaient, tissant un inextricable réseau de cours d'eau. Pour Imrou et Ransa, ce pays était surtout un formidable terrain de jeu, offrant de nombreuses cachettes où ils se dissimulaient pour se jouer de Felden, qui, toujours inquiet, partait à leur recherche. Le mage devait alors user de nombreux artifices pour les débusquer. Ils se transformaient tantôt en oiseaux, tantôt en abeilles, parfois même en loups. Quand il les retrouvait, il apparaissait sous la forme d'un monstre hideux et les terrorisait. Mais il reprenait rapidement son aspect normal pour ne pas trop les effrayer. Imrou et Ransa avaient de nombreux amis narins. une amitié sincère et indéfectible est liée à Dalim, de la forêt de Saule, et sa cousine Selma, de la contrée des arbres de Liane. Ces derniers leur rendaient souvent visite à Nahari, la grande bourgade de cette luxuriante contrée. Imrou et Ransa habitaient une confortable chaumière, le Roseau Vert, située dans le quartier sud, en bordure du Nador. Elle appartenait à Felden, qui lui-même la tenait de son ami Siméon, qui la lui avait offerte au retour de leur premier voyage au Cataract. Ses voisins l'avaient rapidement baptisée la Maison du Mage, et pour les enfants du voisinage, tenter de voir ce qui s'y passait était une grande aventure et, pour le moins, une expédition risquée. Felden s'en amusait d'ailleurs beaucoup. Les jeunes Naharins, les plus téméraires, ceux qui avaient osé pénétrer dans le jardin ensorcelé, tel était le nom qu'il lui avait donné, revenaient toujours avec une histoire extraordinaire à raconter. Alors on a presque l'impression, pas tout à fait, il y a quand même eu pas mal de siècles qui se sont écoulés, et qu'on est un peu dans un univers, la façon de raconter, la poésie, peut-être une influence, je me trompe peut-être, je rectifierai, les mille et une nuits, une sorte de réminiscence, je me trompe ? Le micro, c'est mieux. T'as pas une série.
Bien. Alors, j'ai lu les Mille et une nuits il y a très très longtemps et ça m'a influencé. Mais ce n'est pas ma première référence, en fait. C'est surtout les récits de voyageurs, par exemple, égyptiens qui partaient dans la Babylonie. Et qui en revenait. D'ailleurs, le Naharina est le terme égyptien que les Égyptiens donnaient au Tigre et à la région de Babylonie, de Mésopotamie, du Tigre et de l'Euphrate. Voilà. Mes références, on va dire, là, dans ce cadre-là, c'est l'un de mes ouvrages préférés, c'est sans doute, par exemple, l'Épopée de Gilgamesh, qui est d'ailleurs la. Alors pour moi, c'est le plus ancien livre de fantasy du monde. C'est un livre, on a retrouvé, on va dire, des passages sur des stèles, et en fait, dedans, il y a tous les ferments de la fantasy. Il y a de la magie, il y a une quête, Gilgamesh et son ami Enkidu, qui partent à l'aventure, par exemple, dans la grande forêt de cèdres, pour affronter le géant Umbaba. Voilà. Donc, c'est ce qui m'a nourri. C'est beaucoup l'histoire qui me nourrit.
C'est assez extraordinaire, les hasards des rencontres imaginales, parce que je suis en train de boucler une anthologie de fantasy pour des prescripteurs, des profs, et donc je me demandais comment, tout en leur montrant la fantasy d'aujourd'hui, leur faire comprendre que ça prend ses racines dans les textes les plus anciens. J'ai donc choisi un texte grec. Et j'ai choisi pour ouvrir cette anthologie de fantasy qui se termine par Pierre Bordage, Charlotte Bousquet et Jean-Philippe Jaworski, par justement ce à quoi vous venez de faire allusion, c'est-à-dire l'épopée de Gilgamesh. Comme quoi, finalement, on est finalement très d'accord entre nous sur cette référence historique essentielle, qui d'ailleurs dérange beaucoup, qui n'est pas aussi populaire qu'elle devrait l'être, même si elle est quand même très connue. Je crois qu'on pourra dire, mais c'est un autre sujet qu'on pourra peut-être aborder à une autre occasion, que ça dérange parce que finalement on y trouve le déluge, on y trouve, bref, toute une série de références qu'on retrouve ensuite dans les principales religions, en tout cas celles du livre. Ce qui veut dire que, quelque part, soit le message divin était là depuis bien longtemps, ou autre hypothèse, mais c'est un autre débat qu'on aura, qui sera tout à fait passionnant.
Alors, si je peux me permettre pour rebondir là-dessus, mais si je prends par exemple Tolkien dans Le Seigneur des Anneaux, alors beaucoup d'articles sur Tolkien pour parler de son héritage celtique, germanique, scandinave, enfin finnois également. Mais si je prends le Silmarillion, son dieu créateur s'appelle Ilu, Iluvatar. Ilu, dans la langue, on va dire sumero-acadienne, c'est la plus ancienne référence qui veut dire dieu. Et les dieux faiseurs s'appelaient les Ilus, en fait. Et on retrouve cette racine même dans l'Ancien Testament, parce que Eloha, le terme Eloha vient de Ilu. Alors ensuite, il y a sur le mythe du déluge qu'on va retrouver un petit peu partout également. Alors vous faites référence c'est Utnapishtim, exactement. Et Utnapishtim, c'est exactement le récit de Noé, mais avant Noé. On a cet épisode-là avec les oiseaux, par exemple, qui l'envoient pour voir s'il y a de la terre ferme.
On a entendu tout à l'heure la voix de Noureddine Sehoudi. On a remarqué à quel point c'était bien écrit. C'est une des premières raisons qui fait que vous êtes là. c'est poétique. On pose les choses, le mage, les rapports avec de jeunes personnages. En quoi votre fantaisie prend-elle sa source, ses racines, ou du moins en partie, dans la culture arabo-musulmane?
Elle y prend racine parce que j'ai... Je ne suis pas un acteur, on va dire, de fantaisie habituellement. J'ai lu quelques ouvrages que j'ai beaucoup aimé. Et en fait, je me suis aperçu que le grand absent, c'était l'Orient, quand même. Donc, et depuis tout petit, je voulais sortir, on va dire, du carcan de l'écriture historique pour pouvoir laisser aller, on va dire, mon imagination. Et j'ai trouvé là un formidable terrain de jeu, en fait. Mais un terrain de jeu que je voulais, on va dire, assez pédagogique. C'est pour ça que tous mes noms de personnages, tous mes noms de lieux, ont une base historique, mythologique ou astronomique. Je prends un exemple, j'ai une cité qui s'appelle Ras Al Ghol. Ras Al Ghol est le nom d'une étoile qui veut dire la tête de l'ogre, par exemple. Sad Al Suud également, c'est le nom d'une étoile qui veut dire la propice des propices, et j'en ai fait une baie assez merveilleuse. De la même manière, il y a beaucoup de mots qui viennent de l'arabe, qui sont tombés dans la langue française, et vice-versa d'ailleurs. Il y a un terme, par exemple, comme le Sahara. Certains linguistes ne sont pas d'accord avec ça, mais Sahara veut dire en arabe ensorcelé, ce qui redonnait le mot sorcier, sorcière. Et quand on sait que, par exemple, en arabe, on dit sour pour un sort, phonétiquement parlant, lorsqu'on parle de l'arabe, passe de l'arabe au français, de la même manière, le mot mage, majus, en arabe, l'étymologie vient de là.
La fantaisie joue aussi, on vient de le voir, avec les mots, et en tout cas, on le fait beaucoup dans l'univers de fantaisie de Noureddin Saoudi. On en lira un autre petit extrait tout à l'heure. On part ailleurs, à une autre époque. On est autour de l'an 1000, hein, les grandes ruptures, et on est dans ce qui est, pas officiellement encore, peut-être la Hongrie. Petit extrait. La chamane, étourdie, observa le paysage autour d'elle. L'ombre était devenue lumière, et le jour s'était fait nuit. Le monde baignait dans des lueurs crépusculaires. Elle marchait depuis des mois, peut-être. La lune avait parcouru le firmament, d'abord croissant, puis quartier, gibbeuse et pleine ensuite. À moins que ce ne fût le soleil. Ce n'étaient plus les montagnes qui s'élevaient, mais les vallées qui s'effondraient. Le ciel ressemblait aux surfaces noires des lacs. Il n'y avait pas de vent, ni d'animaux. Soudain, Duna aperçut un loup, aux yeux d'humain. Elle tressaillit. « N'aie pas peur, Taltos, dit-il. Ton âme a quitté tes entrailles et tu te trouves dans le monde des esprits. Qui es-tu ? Ton guide, bien sûr. Mon nom est Ogman. J'étais naguère un homme. Mon père a servi le grand guerrier Tohom quand il a conquis cette région. Le premier, il a foulé ses territoires. L'animal avança et gratta le sol de sa patte gauche. Une poudre noire apparut. Du sel, précisa Ogman. Il recommença de l'autre patte et ses griffes tracèrent trois sillons argentés. De l'or, la région regorge. C'est pour cela qu'Istvan est venu ici. Jadis, quand les sept tribus magyares sont arrivées dans le bassin des Carpates, nous sommes répartis les possessions et les honneurs. Le titre de prince est revenu à Almos et à sa branche. La Transylvanie est échue à Tautom. Aujourd'hui, l'équilibre est bouleversé, car Istvan veut tout. Est-ce pour cela que tu me viens en aide ? Oui. Les choses doivent retrouver leur place, sans quoi le dieu ancêtre nous abandonnera. Nous ne pouvons pas laisser ce pays au dieu pâle dont se réclame le roi. Tu as compris cela, chaman. Tu as osé répéter le nom de Kopani, sans craindre le retour de son esprit. Tu as rassemblé son cadavre dispersé. Un seul a réalisé un tel exploit avant toi, le vezir Bulksu, qui, pour récupérer la tête d'un cousin décapité, offrit tout le butin et les prisonniers rassemblés au cours de ses campagnes jusqu'à Cambrai. Duna était en nage. Tantôt, elle ressentait un froid glacial. Tantôt, elle étouffait. « Nous devons escalader le Vikfa, l'arbre qui atteint le ciel, » reprit Ogman. « Ne perdons pas de temps, car on te suit. Qui ?»« Le loup d'Isvan est sur tes traces. »« Je ne le connais pas. Tu l'as déjà rencontré. Il se nomme Farkas. »« C'est donc lui qu'on appelle Lise, » s'étonna la Taltos. « Il était pourtant aux côtés de mon père. »« Les hommes changent, parfois. » L'animal se mit en route. et Duna le suivit. Elle essayait de se rappeler les traits de Farkas, en vain. Seuls ses yeux de fauve demeuraient gravés en elle. Il avait arrêté son bras dans la tente de Copani. Elle aurait dû tuer le traître à cet instant. Un flot de haine lui emplit la poitrine. Elle trébucha. Ses pieds nus ne foulaient plus la terre sablonneuse de la Puzza, mais une surface rugueuse. Après un moment, elle comprit qu'il s'agissait d'écorce. Ils étaient arrivés au Vulfa. Un tronc gigantesque, large comme une montagne, s'élançait vers le ciel qu'il couvrait intégralement de ses branches. La chamane marchait à présent sur une racine démesurée. « Ne faut-il pas descendre pour retrouver les âmes des morts ?» s'enquit-elle. « Ne sois pas impatiente. Souviens-toi que tu contemples ce que seuls les Taltos peuvent voir. » Les formes vides tourbillonnaient autour d'eux, tels des brouillards mouvants. « Nous mangerons ce que nous pouvons manger, » sifflait-elle, « sang d'humain. Reculez, » leur gronda Augment. « Nous boirons ce que nous pouvons boire, sang d'humain. » Le loup grognant, montrant les dents. Les esprits reculèrent à contre-cœur. « Nous sucerons ton sang rouge, » lancèrent-ils encore à Duna. « Nous te déchirerons le cœur et le foie. » Pas très rassurant, Fabien Clavel, le monde des esprits.
Oui, alors ça c'est un épisode tout à fait particulier dans le livre. C'est effectivement le moment où la chamane invoque les esprits et décide d'effectuer l'ascension du Vilakra, c'est-à-dire l'arbre de vie qu'on retrouve dans toute la culture chamanique de ces régions. Puisque donc en gros, on disait tout à l'heure qu'on ne parlait pas beaucoup de l'Orient, la Hongrie c'est un peu le... Enfin moi c'est comme ça que je la conçois, c'est un peu le trait d'union entre les deux. Hein, c'est d'un côté il y a les tribus barbares qui sont arrivées de l'Orient, on ne sait pas exactement d'où, et il y a l'installation dans un pays proche de l'Occident, et la volonté, en tout cas qui est racontée dans le livre, d'un roi d'établir un royaume occidental féodal avec le christianisme. Et il va y avoir la lutte entre ces deux éléments. Et là, par exemple, pour la plupart des formules qui sont évoquées dans ce passage, je me suis inspiré d'articles qui ont étudié le chamanisme en Hongrie à l'époque. Alors ça fait beaucoup de termes compliqués en même temps. Normalement, beaucoup de ces termes sont présents un peu plus tôt dans le texte. Et on retrouve effectivement l'idée que le chaman doit parcourir en fait toutes les branches de l'arbre de vie pour redescendre après, hein, sachant que cet arbre représente le monde. Et donc les formules qui sont données ici sont des formules rituelles que j'ai pu retrouver donc grâce à des recherches d'historiens.
Cette période autour de l'an 1000, c'est une période historique importante dans votre roman, qui est donc un roman de fantaisie, mais très inspiré par l'histoire et la tradition, en tout cas, j'imagine, en partie orale, de cette société. L'impression quand même, peut-être que je me trompe, mais après avoir lu votre livre, que c'est un affrontement entre un monde qui meurt et un monde qui naît et s'implante. Le dieu pâle, c'est évidemment le Christ, c'est le dieu des chrétiens. Et là, on est dans un monde chamanique, un monde animiste en quelque sorte, qu'on pourrait, évidemment très différent, les cultures ne sont pas les mêmes, les pays ne sont pas les mêmes, mais qu'on pourrait retrouver dans certains pays d'Afrique avant les religions du livre. C'est la fin d'un monde, un monde nouveau et les esprits entre les deux. Est-ce que j'ai raison un petit peu en disant ça sur votre livre, Fabien Clavel ?
Oui, d'une certaine manière, c'est vraiment la fin de la Hongrie nomade, tribale, puisqu'ils ont déferlé pendant un siècle plus tôt, en gros 150 ans avant le début du roman. Ils ont fait des raids pendant une centaine d'années en étant parfois payés par des rois qui leur demandaient d'aller tiens, attaquer mon voisin et pas moi. Et en terrifiant tout le monde. Et au bout d'un moment, les gens ont commencé à s'organiser et les Hongrois ont subi deux défaites extrêmement cuisantes qui les ont un petit peu ralentis. Et donc, ils ont décidé de s'installer. Et là, c'est le moment, effectivement, où on change complètement d'organisation. Donc, il y a les dernières luttes des mouvements tribaux qui sont là pour résister, garder leurs anciens dieux, etc. Et la mise en place, donc, d'un État moderne, avec donc vraiment cette opposition. Mais ce qui est intéressant finalement, c'est qu'il y a ce monde qui meurt, un autre monde qui naît, mais qui naît dans la douleur et qui en plus va mettre du temps à s'installer, même si le roi István, qui est un roi qui est extrêmement célèbre en Hongrie, hein, c'est un des rois les plus importants, c'est un peu l'équivalent de Louis XIV, même si c'est pas du tout la même période, mais c'est vraiment un roi qu'on retrouve partout sur les billets de banque, chaque ville a sa statue. Y a donc cette opposition, mais en même temps pour moi c'est la naissance de la Hongrie moderne. C'est-à-dire que la Hongrie moderne encore aujourd'hui, et j'ai pu le constater en lisant des interviews d'écrivains, par exemple Kertész, qui est le prix Nobel hongrois de littérature il y a quelques années, je me suis aperçu que je retrouvais un peu la même analyse dans ce qu'il disait, c'est-à-dire que la Hongrie d'aujourd'hui en fait n'a toujours pas digéré cette opposition entre christianisme, c'est un pays qui est encore très très chrétien, on le voit avec les réformes actuelles du gouvernement, qui est un gouvernement extrêmement populiste, qui met ça vraiment en avant, qui d'ailleurs essaye de reprendre un peu certains symboles de la Hongrie d'István, donc en revenant 1000 ans en arrière. Et en même temps, il y a tout un néopaganisme qui existe, et les Hongrois sont très fiers de ces deux passés. Et en fait, cette scission entre les deux n'est toujours pas résolue. C'est pour ça que même si ce monde meurt, il reste des fantômes. Dans le roman, il reste des fantômes à la fin, et ces fantômes continuent d'être là. Et là, les problèmes de la Hongrie actuelle, selon moi, en tout cas son identité moderne, si on veut le dire plus positivement, c'est encore cet affrontement entre les deux et qui n'est toujours pas résolu.
Eh oui, l'histoire est parfois longue. C'est sur des grandes périodes et on n'imagine pas à quel point ce qui a pu se passer il y a parfois 1000 ans ou quelques 200 ans ou 250 ans en France, par exemple, peut encore nous faire agir, nous faire réfléchir et peser sur nos choix. D'autres fantômes avec Tan Van Trannot. On va lire aussi un petit extrait. Donc, il s'agit du Temple de la Grue Écarlate, une enquête du mandarin Tan. Vous avez deviné au sous-titre que donc c'est un roman policier historique, qui se situe donc dans le Vietnam du XVIIe siècle. Et le mandarin, c'est un haut fonctionnaire, un lettré. Et ici, donc, c'est au travers d'enquêtes qu'on va retrouver de livre en livre, qu'on va découvrir aussi le fonctionnement de la société du Vietnam au XVIIe siècle. Et puis ces déchirements et ces affrontements, c'est une période importante dans l'histoire du Vietnam. C'est un moment où, y compris, des dirigeants s'opposent avec la pression d'éléments extérieurs qui vont jouer un rôle qu'on connaît bien maintenant, qui sont à la fois les Français, qui pèsent une pression forte. On est aux abords de la colonisation, en tout cas elle se prépare, mais on a aussi la Chine, qui est aussi un acteur important. On sait bien qu'à la fois, elle a pu soutenir le Vietnam dans sa guerre contre l'agression américaine, mais aussi parfois, menacer l'indépendance du Vietnam, ce qui fait que les rapports avec les Chinois sont souvent très ambigus. Nous le savons bien. Maître, en tombant, le démon rouge a failli fracasser la tête de l'insignifiant mollusque que je suis, et les griffes crochues du dragon qui monte la garde auraient bien pu m'ôter la vue, dit le maître d'école bas. Il inclina le buste par respect devant le mandarin Tan. Derrière la salle de prière, j'ai évité de justesse les serpents de pierre qui ont dévalé le toit. On aurait juré une horde d'esprits malfaisants, décidés à réduire en pulpe mon corps, déjà vil et répugnant. Le citoyen qui présentait cette requête devant le conseil communal paraissait encore tout transi. Maître Bas hocha sa tête qui commençait à se dégarnir et produisait un claquement de langue sonore pour ponctuer son propos. Mandarin Tan présidait ce soir son premier conseil communal. Son siège en bois lourdement ouvragé avait été installé sur une estrade, d'où il dominait ses administrés. Les torches des veilleurs, postées au coin de la pièce, flattaient les moirures de la robe verte mandarinale. Ses épaules larges, très droites, ses pieds immenses, écartés avec assurance, il semblait une divinité un peu sévère, prête à rendre justice. Un courant d'air traversa la vaste salle, s'enroula autour des colonnes massives et fit frémir les flammes. Le visage du mandarin disparut dans l'ombre alors que le maître d'école bas reprenait, insistant « Hier, je suis arrivé à temps pour sauver un misérable paysan qui s'était fait happer par les marches vermoulues comme si des génies néfastes l'avaient tiré par les chevilles. » Le mandarin Tan plissa les yeux méfiants. « Malheureux inconscient, ce maître d'école, pour mêler démons et goules à faire public que des humains. Fils des campagnes, le mandarin vénérait les âmes des morts comme les esprits de la nature, les génies des villes comme les dieux du foyer. Le nombre de ses protecteurs célestes s'augmentait aussi des divinités de son cru, déesse de la réussite, de la fortune ou de la poésie. En les invoquant, collectivement, pour n'en point oublier, il avait pu jusqu'alors conjurer la malchance. Mais il évitait de parler de ses rites personnels, car il ne s'avouait pas superstitieux. Impassible, il soupesa du regard le plaignant assis à sa gauche, qui affichait une mine humble. Ses épaules affaissées indiquaient une déférence obséquieuse, mais le mandarin Tan vit briller dans ses prunelles un éclair perfide. Par les sorcières en haillons qui hantent le bagnant de la cour, pensa le mandarin, l'impudent, il invoque les esprits malins pour couvrir une ruse. Le magistrat dit sèchement, « Nous ne sommes pas ici pour parler de fantômes et pour décider si le temple de la grue écarlate doit rester ouvert. Et ce, en nous appuyant sur des faits réels. » Alors, le mandarin croit bien aux esprits, mais quand il s'agit de crimes, quand il s'agit d'activités humaines, il ne faut pas le prendre pour le dernier des naïfs, c'est bien ça.
Oui, C'est ça. En fait, le mandarin est un produit du confucianisme. C'est un lettré qui a réussi au concours mandarino. Et ces concours sont la base du confucianisme qui promeut la stabilité de la société. C'est-à-dire que c'est une société très hiérarchisée. Tout en haut, on a le fils du ciel, l'empereur, à qui on doit obéissance. Ensuite, les maîtres, les parents. Et puis, l'individu n'est défini que par rapport à sa place dans la structure globale. Donc, c'est une structure très, très logique, en fait. Mais le mandarin étant confucéen a un autre... a des paradoxes à gérer parce qu'il est viète, en plus d'être mandarin. Et tous les viètes sont très superstitieux. Donc bien qu'ils disent « je suis confucéen » et donc très logique, ils vénèrent en même temps les démons comme on a pu le voir. Et c'est vraiment quelque chose qui infuse, qui est très présent en fait dans la vie des viètes parce que en effet, on ne médite pas les démons, enfin des esprits qui peuvent habiter dans les arbres, dans les pierres. On croit par exemple que les enfants peuvent être ravis par kidnappés par des démons. Donc par exemple, tout enfant qui traverse une rivière, une rizière tout seul la nuit par exemple, on lui dit tu tiens ton pouce comme ça parce que les démons vont venir te prendre par le pouce et surtout il ne faut pas offrir prise aux démons. Et donc, aux enfants, on donne des prénoms ou des sobriquets assez repoussants, comme Pou, Cafard, pour qu'on ne tente pas les démons. Ou on les habille en filles, hein, c'est encore mieux, parce que les démons ne sont pas intéressés par les petites filles, mais par les petits garçons qui peuvent faire travailler. Donc, il y a beaucoup de subterfuges comme ça qui montrent que la vie des viètes est régie par des superstitions qui proviennent en fait d'un animisme ancien. Et de toute façon, on a des cohortes de fantômes qui hantent les lieux la nuit. Par exemple, on a des catégories de fantômes, des fantômes de noyés, des fantômes de pendus, des fantômes de jeunes filles qui sont mortes avant d'avoir connu le plaisir, donc qui reviennent attaquer des hommes. Donc elles choisissent quand même des hommes pas trop décatis, de préférence des novices ou des puceaux. Enfin, donc on a toute une catégorie de démons, d'esprits. Et donc on retrouve ça dans les histoires du mandaratan parce que c'est vraiment inhérent à la nature des villes.
On va partir ailleurs, à Paris. Finalement, Paris, c'est pas très exotique. Mais vous allez voir, ces personnages viennent de très loin. Ils vont avoir une drôle de surprise. Didier Denax, cannibale. Nous avons embarqué le 15 janvier 1931 sur la ville de Verdun. Nous vivions sur le troisième pont comme des passagers de dernière catégorie. Il faisait trop chaud le jour, trop froid la nuit et plusieurs d'entre nous contractaient la malaria lors d'une escale aux Nouvelles-Hébrides. Il y a eu trois morts, si mes souvenirs sont exacts, dont Basite, un canac albinos de Wé. L'équipage a jeté leur corps à la mer sans nous laisser le temps de leur expliquer que l'on est pour vivre avec les vivants et que l'on meurt pour vivre avec les morts. Les morts ne peuvent vivre dans l'océan. Ils ne peuvent pas retrouver leur tribu. Nous sommes arrivés à Marseille au début du mois d'avril sous la pluie. Des autocars militaires attendaient sur le quai de la Joliette pour nous conduire directement à la gare Saint-Charles. Je ne connaissais que la brousse de la Grande Terre et d'un coup je traversais l'une des plus vastes villes de France. À l'époque, je n'étais jamais allé au cinéma. J'avais mal aux yeux à force de les tenir ouverts pour ne rien perdre du spectacle. Les lumières, les voitures, les tramways, les boutiques, les fontaines, les affiches, les halls de cinéma, les théâtres. Parvenus à la gare, nous n'osions pas bouger. Nous restions collés les uns aux autres, comme des moutons, effrayés par le bruit, les fumées, les râles de vapeur et les sifflements des locomotives. La fatigue m'a terrassé. Je n'ai presque rien vu du voyage, sauf un moment magique. Un peu de neige qui tombait sur le Morvan. je restais le plus près possible de Minoé. Elle m'était promise, et j'avais fait le serment à son père, le petit chef de Canala, de veiller sur elle. À Paris, il ne subsistait rien des engagements qu'avait pris l'adjoint du gouverneur à Nouméa. Nous n'avons pas eu droit au repos, ni visité la ville. Un officiel nous a expliqué que la direction de l'exposition était responsable de nous et qu'elle voulait nous éviter tout contact avec les mauvais éléments des grandes métropoles. Nous avons longé la Seine en camion et on nous a parqués derrière des grilles dans un village kanak reconstitué au milieu du zoo de Vincennes, entre la fosse aux lions et le marigot des crocodiles. Leurs cris, leurs bruits nous terrifiaient. Ici, sur la grande terre, on ne se méfie que du serpent d'eau, le tricoréier, et encore, les gamins s'amusent avec. C'est rare qu'il arrive à ouvrir sa gueule assez grand pour mordre. Au cours des jours qui ont suivi, des hommes sont venus nous dresser, comme si nous étions des animaux sauvages. Il fallait faire du feu dans des huttes mal conçues, dont le toit laissait passer l'eau qui ne cessait de tomber. Nous devions creuser d'énormes troncs d'arbres, plus durs que la pierre, pour construire des pirogues, tandis que les femmes étaient obligées de danser le pilou-pilou à heure fixe. Au début, ils voulaient même qu'elles quittent la robe mission et exhibent leur poitrine. Le reste des temps, malgré le froid, il fallait aller se baigner, nager dans une retenue d'eau, en poussant des cris de bête. J'étais l'un des seuls à savoir déchiffrer quelques mots que le pasteur m'avait appris, mais je ne comprenais pas la signification du deuxième mot écrit sur la pancarte fichée au milieu de la pelouse, devant notre enclos. Homme anthropophage de Nouvelle-Calédonie. Un roman, Didier Deninx, et pourtant tout est vrai. Nous sommes en 1931, la République a déjà 150 ans, la France est le pays des droits de l'homme, en tout cas c'est ce qu'on m'a appris à l'école, et ça, ça existe vraiment à Paris en 1931.
Oui, ça existe depuis, là c'est en 1931, ça existe depuis déjà 150 ans. La première exposition, c'est la Vénus hottentote, hein, qui a été étudiée par Cuvier, qui a été dépecée à sa mort, qui a été prostituée et qui ensuite était en effigie à l'entrée du musée de l'homme. Moi, quand j'étais gamin à l'école, on m'a emmené à l'âge de 10 ans au musée de l'homme, et la première femme nue que j'ai vue de ma vie, c'est la Vénus hottentote, le moulage qu'il y avait à l'entrée du musée de l'homme. Donc c'est quelque chose de récurrent, mais il y a une sorte de moment symbolique en 1931, où il y a cette grande exposition coloniale, où on reconstitue un monde en miniature à la porte la porte de Vincennes, sur la pelouse de Reuilly, et où il va y avoir 31 millions de billets vendus. Il y a des gens qui viennent plusieurs fois, donc on considère qu'il y a eu 11 millions de visiteurs. Et les Kanaks ont été choisis pour montrer dans l'idéologie de l'époque, qui était une idéologie dispensée par l'école républicaine, qu'il y avait une hiérarchie des races, qu'il y avait la race blanche qui était là, les occidentaux au sommet, et qu'il y avait une sorte de gradation, et qu'il fallait qu'il y ait un démarrage et qu'on trouve le chaînon manquant entre l'homme et l'animal. On s'est demandé si c'était les Guyanais à un moment, et puis c'est tombé sur les Kanaks, qui ont été véritablement stigmatisés comme étant des hommes non aboutis, comme étant une sorte de race intermédiaire. Donc là, il y a toute une littérature, il y a Proust qui tombe dans le panneau, qui crée une académie Kanak, où on devient membre de cette académie Kanak en faisant la plus affreuse grimace. Donc tous les mois, il y a des réunions de la bonne société, comme ça, avec Reverdy, avec la fille de José Maria de Heredia. Enfin, quand on prend ça dans les années 20 et 30, c'est absolument, absolument effrayant, la pensée, cette pensée raciale qui s'applique. Et à un certain moment, il faut que cette idée soit largement partagée par la population française. Donc les expositions coloniales sont des expositions, il y a cette grande exposition coloniale de 31, mais sinon il y en a des dizaines et des dizaines qui sont organisées à travers tout le territoire, à Nancy, à Metz, à Strasbourg, à Lyon, dans le parc de la Tête d'Or, à Marseille, au Havre, à Amiens et tout. Enfin, il y a une documentation absolument considérable pour convaincre la nation française qu'il y a cette hiérarchie des races et qu'il y a une légitimité pour les Occidentaux à dispenser leur leur civilisation, leur savoir à des races plus ou moins inférieures, suivant les choix qui ont été faits. Et l'université est au diapason. Il y a des dizaines, des centaines de doctorats qui bétonnent cette idée-là. Il y a même dans la police des doctorats qui sont faits sur la manière de reconnaître les meurtriers à la forme de l'oreille. Donc ça, vous lisez ça aujourd'hui, vous avez l'impression d'être dans quelque chose de total science-fiction comme ça. Donc vous avez tout ce type de choses. Et il y a l'invention de ce que j'appelle la chronologie sur la bosse des maths, la bosse, mais il y avait la bosse de la prostitution, il y avait la bosse du vol.
L'homosexualité aussi.
Sur la sexualité, sur toutes ces choses-là. Et donc, il y avait des gens, par le simple fait d'être nés sur telle aire géographique, sur telle ethnie, étaient voués à tel ou tel malheur dont elles ne sortiraient jamais. Donc, il nous en reste des choses avec la bosse des maths, avec des choses de ce genre-là. Mais c'était des principes scientifiques de l'époque qui avaient des conséquences sur la vie quotidienne de millions et de millions de personnes.
Dans ce même contexte, anecdote, j'ai vu récemment une planche faite par d'éminents scientifiques qui pourtant ont leur nom dans le dictionnaire de notre pays, où on voit donc cette hiérarchie, sauf que les femmes y prennent leur place. Donc elles sont nettement en dessous de l'homme, bien sûr, quand même, regardons les choses sérieuses, mais quand même au-dessus du noir. Ouais, après, il y a Laurent Houtan.
Les hommes et les femmes, ce qui est extraordinaire, par exemple, les Kanaks, on les a mis comme étant les cannibales. Donc la chose la plus violente qui soit. Mais sauf qu'à côté, la femme du Kanak, c'est pratiquement la vaïnée. Et donc vous avez Et les gens s'en rendaient pas compte à l'époque, c'est-à-dire qu'il y avait un côté extrêmement doux et érotique, une érotisation de la femme et quelque chose d'ensauvagé du côté de l'homme qui lui faisait pendant. Rien que ce dispositif-là, il aurait dû fortement, fortement alerter et personne s'en apercevait, quoi. Donc c'est qu'il y avait aussi un besoin de rentrer dans ce dispositif, quoi.
On va partir ailleurs, toujours avec vous, Didier Denax. Galadio, un autre roman paru relativement récemment, un chapitre 2, Hello, All Swing Boy. Jusqu'à l'année dernière, je ne me souviens pas d'avoir été traité différemment des autres élèves. À l'école primaire, on m'a enrôlé sans problème dans la troupe des PUMF, le patronage du parti nazi. Vêtu de l'uniforme, j'ai participé à toutes les sorties en forêt, à la visite d'un cuirassé qui mouillait dans le port de Duisbourg, aux collègues pour le Secours National, sur les marchés. À plusieurs reprises, j'ai fait appel du matin, l'appel du matin dans les camps de vacances de la région des Silacs, au moment de la levée du drapeau. On m'a même remis une médaille quand je suis arrivé premier d'une course d'orientation de nuit dans le massif de Bruchères. 5 kilomètres à couvrir avec, pour tout équipement, une lampe de poche, une boussole. L'instituteur s'intéressait de près à mon travail en classe. Il me disait que j'avais toutes les qualités requises pour devenir pilote d'avion. Le soir, je m'endormais en survolant le monde aux commandes de mon Fokker, encore plus rapide encore que celui de Manfred von Richthofen, le célèbre baron rouge. 3 ans plus tard, j'ai changé d'uniforme pour revêtir celui des plus grands, ma brigade jeune peuple. J'ai défilé sur la place du Prince Henri pour honorer la visite de Joseph Goebbels, notre ministre de l'éducation du peuple et de la propagande. Je croyais que mon passage dans les jeunesses hitlériennes se ferait automatiquement avec mon entrée au gymnasium en septembre dernier, mais c'est à cette époque, à cette période-là, que tout a commencé à se détraquer. Les cours avaient repris depuis une semaine quand je me suis présenté à la piscine en plein air pour l'entraînement au relais. Il faisait un temps magnifique alors que les feuilles des arbres avaient déjà commencé à perdre de leur éclat. La caissière m'a adressé un sourire quand je suis passé devant elle, mon sac sur l'épaule, mais l'employé chargé de la chaufferie m'a bloqué au bas de l'escalier alors que je m'apprêtais à entrer dans un des vestiaires. Il s'est raclé la gorge avant de parler. Je crois qu'il y a un problème. Un problème, je ne comprends pas. J'ai fait signe à mes camarades en maillot de bain qui s'échauffaient sur la pelouse de l'autre côté de la vitre. J'ai trouvé bizarre qu'aucun ne réponde à mon salut, qu'ils évitent mon regard. J'ai eu des instructions, petit, vaut mieux que tu évites de venir te baigner ici. Mais je fais partie du relais depuis 3 ans, demandez à M. Brunner, le maître nageur, il est là, derrière vous. Il a haussé les épaules. Ne cherche pas d'histoire, petit, c'est lui qui m'a donné la consigne. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il ne veut plus de moi? Je voyais bien que ça ne lui faisait pas plaisir de jouer ce rôle. Il a baissé la tête et approché son bras nu du mien. Il trouve que tu es un peu trop bronzé. La mairie a changé le règlement. Depuis la semaine dernière, la piscine est interdite aux Juifs et aux Métis. c'est affiché à côté des horaires d'ouverture. On est en Allemagne, juste avant la Seconde Guerre mondiale, et évidemment, il est noir, ou plus exactement métisse.
Ouais, c'est-à-dire qu'il est, métisse, donc il est blanc. Il est métisse, il est noir. Et c'est une histoire... Je suis tombé en travaillant sur, sur Cannibal, je suis tombé sur cette histoire-là. Donc on est dans les années 30 aussi, en Allemagne. Et en 1918, une partie de l'armée française a occupé une partie de l'Allemagne. Et la France, avec l'idéologie raciale, a voulu humilier l'Allemagne en envoyant les troupes coloniales. Et donc les troupes coloniales sont arrivées. Et ça a provoqué un rejet de la part des nationalistes, ultranationalistes allemands. Il y a une campagne énorme qui s'appelait la campagne de la honte noire en Allemagne dans ces années-là, menée par ce qui va devenir le parti nazi. Hein, en 1918, on a déjà les choses qui sont en train de se mettre en place. Et quand il y a les troupes coloniales qui sont là, il y a un millier d'enfants métis, il y a des histoires d'amour qui se nouent entre des jeunes femmes allemandes et des soldats des troupes coloniales. Et dans les troupes coloniales, il y a des malgaches, il y a des algériens, des marocains, il y a des vietnamiens, il y a beaucoup de sénégalais, maliens, le Soudan français. Et ces 1000 enfants vont être pris en otage par l'histoire. Et quand Hitler arrivera au pouvoir, il va organiser une rafle des métis. Parce qu'un scientifique, j'ai lu ces textes qui sont effrayants, a fait un calcul comme quoi ces 1000 enfants, si on les laisse prospérer et vivre dans l'Allemagne, au bout de 2 siècles, 3 ans, 2 heures et 28 minutes et quelques secondes, ils auront négrifié 90% du sang allemand, et donc c'est un danger total pour la race aryenne. Et donc il va y avoir une rafle qui va être faite pour stériliser ces enfants. Et donc j'ai reconstitué la vie d'un de ces enfants métis. Et ce qui est intéressant, c'est ça, c'est la manière dont il est perçu, c'est-à-dire que lui se perçoit comme un enfant, comme un jeune, comme un sportif, comme quelqu'un, comme un pilote, et ainsi de suite. C'est ça ce qu'il est véritablement à ses propres yeux, sa vie intérieure et celle-là. Mais les gens vont être obligés de ne voir en lui, pour certains, que le noir, pour certains, que le blanc. Sa mère est protestante, certains le verront comme protestant. Son père, qu'il n'a jamais connu, était musulman, donc certains le verront comme musulman. Quand il est allemand par sa mère, il est français, mais français de dernière catégorie, indigène. Et donc à chaque fois, on lui renvoie un éclat de ce qui le constitue. Mais il n'est jamais perçu comme quelqu'un d'entier, et lui se vit de cette manière. Donc c'est ça qui m'intéressait, c'était le regard sur lui, c'est un regard qu'il mutile, c'est un regard qu'il fractionne.
Va et vient entre des époques, des mondes et des conceptions différentes. C'est ça ce qui fait tout l'intérêt de vos romans. On repart en Hongrie avec vous, chez Timor des Flèches. Depuis la salle du conseil, Zvan regardait le paysage à la fenêtre. Un mois avait suffi pour passer du printemps à l'été. Les premiers jours d'août s'annonçaient torrides. De verte, les longues prairies de la Pizza étaient devenues jaunes. Le soleil avait repoussé les nuages et rageur, déversé sur Aptargom, une chaleur étouffante que les nuits mêmes ne parvenaient pas à rafraîchir. Il n'était plus question d'allumer le moindre feu. L'air était si sec qu'une étincelle aurait suffi à embraser le pays tout entier. Le même changement était intervenu sur le jeune homme. Son visage perdait les dernières courbes de l'enfance, consumé par une fièvre intérieure qui ne le quittait plus. Son teint pâle devenait blafard, son regard trahissait une tension inquiète. Un réseau de rides s'était formé sous son front jadis serein. Il n'avait pas mûri, il avait vieilli. Sous le masque de l'homme naissant se dissimulait toujours un garçon soucieux. Soudain, dans le ciel vide et immensément bleu, une ombre apparut, minuscule tache noire. On reconnaissait le vol d'un oiseau de proie, un aigle, un faucon sans doute. La masse s'approcha, s'agrandit, le rapace glapit et son cri envahit l'espace à la manière d'une menace de mort. Peut-être était-ce un charognard, après tout. On est toujours entre le réel et l'imaginaire. Le monde des faits, mais des faits, F-A-I-T-S bien sûr, et le monde des esprits. On est dans un univers où le rationalisme, le réalisme ne sont pas les seuls éléments dominants de ce monde.
Oui, là, c'est vraiment une histoire de deux croyances qui s'affrontent, parce que par exemple, au tout début du roman, il y a une guerre entre Istvan, donc qui est l'héritier légitime, mais qui a été élevé dans le christianisme et qui est un chrétien convaincu, alors que son père, par exemple, s'était converti, mais c'était une conversion de façade, histoire d'être tranquille avec tous les autres royaumes qui les entourent et qui, eux, se sont convertis aussi. Et Copagne, qui est son cousin, qui, lui, est tenant de la tradition. Et d'un côté, on va avoir, au cours de cette guerre qui ouvre un peu tout le reste, d'un côté, le pouvoir de la prière, où il sent qu'il est soutenu par un monastère, où tous les moines prient pour lui, etc. Et de l'autre côté, il y a toutes les forces vives liées au chamanisme, et notamment cet oiseau, évidemment, fait référence au Turul, c'est-à-dire une espèce de... C'est assez difficile à définir, c'est un gros oiseau, qui est un oiseau, un peu un charognard justement, et qui est un oiseau mythique en Hongrie, et qui est d'ailleurs aujourd'hui un symbole qui est constamment réutilisé par les nationalistes, qui se revendiquent en même temps d'un christianisme pur et dur, et ça revient toujours à ce mélange. Et effectivement, ce que je voulais montrer dans ce roman, c'était que de tout mettre sur le même plan, c'est-à-dire on ne sait jamais, enfin ce sont deux croyances, et on ne sait jamais si l'un existe, l'autre pas. D'ailleurs, il n'est jamais question de nier l'existence d'un autre dieu. C'est une lutte entre dieux, entre références mythologiques.
On repart avec vous, proche de la fin de ce café littéraire, Noureddine Saoudi. Petit extrait. La compagnie établit son campement à la lisière de la forêt entre deux gros troncs d'arbres qui jonchaient le sol. Le soleil avait disparu derrière les montagnes dont les crêtes devinrent encore plus lugubres. Les étoiles s'allumèrent une à une, et un croissant de lune apporta un faible rayon de lumière. Imrou et Selma entrèrent dans la sylve, à la recherche de bois mort, tandis que leurs amis organisaient le camp. Siméon et Ramsa mirent à terre les pactages de dos de Habib, et lui retirèrent son harnais. Puis Ramsa emmena le cheval à la robe bépêtre, près de la rivière, où l'herbe était particulièrement grasse. « Demain, tu auras une journée plus difficile, » lui confia-t-elle en lui caressant l'échine. « Le terrain sera plus pentu et j'espère que l'on trouvera une clairière avec de la bonne herbe. » En guise de réponse, le cheval s'ébroua et partit brouter tranquillement. Elle s'allongea non loin de lui, regardant songeuse la voûte céleste. Une étoile filante la traversa et elle fit son vœu le plus cher, celui de voir l'océan. Depuis la nuit passée à une nuque calquée, elle sentait monter en elle ce besoin de voir la grande étendue bleue, comme si ce fût un besoin vital. Elle n'arrivait pas à expliquer cette irrésistible attirance qui semblait venir du plus profond de son être. Elle fut dérangée dans ses pensées par Dalim, qui vint s'asseoir près d'elle. « À quoi penses-tu, Rani ?»« À rien de précis, il n'y a pas beaucoup d'étoiles ce soir. C'est parce que les montagnes cachent une partie du ciel. À nous également, Dalim, on cache des choses. N'es-tu pas intrigué par ceux qui nous suivent ? Je me demande qui ils sont. » Oui. C'est très curieux. Et Felden n'est pas disposé à nous dire qui sont ces individus. Il doit avoir ses raisons, je suppose. Je trouve qu'il se passe des choses très bizarres depuis notre départ de Nahari, depuis que nous avons trouvé la conque, en réalité. Je pense que Siméon et Felden trouveront une explication à la présence de cette conque et à ces mystérieuses inscriptions à Kudram. Pour ma part, je pense que quelqu'un l'a égarée, car elle ne peut venir directement de l'océan. C'est impossible. Tu as certainement raison, dit Ransa. Elle ne parla pas du message de la conque, comme le lui conseilla Felden. On est en plein mystère, Noureddine Saoudi.
Oui, alors, j'ai failli commencer l'ouvrage de cette manière-là. J'ai changé pour pas... Mais j'ai tout de suite, l'une des premières images, c'était une jeune enfant qui trouvait une conque et à l'intérieur un message.
Comme une bouteille à la mer.
Comme une bouteille à la mer. Voilà. Et alors, le message renfermé dans cette conque est un langage mystérieux, en fait, que Ransa est la seule, on va dire, capable de comprendre. C'est un langage que j'ai appelé le Njomalil, parce que j'ai créé un langage, justement, pour cet ouvrage, à partir des formes de constellations. Là encore, je reviens sur l'héritage oriental, parce que deux tiers des noms des étoiles les plus connues ont une origine arabe. Et donc je me suis dit, il fallait que je trouve un langage universel. Parce que dans mon ouvrage, c'est l'affrontement entre le verbe créateur et le verbe destructeur. Et donc il me fallait un langage assez puissant pour pouvoir mettre en œuvre ces forces-là. Et donc je me suis dit, qu'est-ce qui unit tous les peuples de la terre, si ce n'est le ciel d'une manière ou d'une autre? Et donc j'ai pensé directement aux constellations, et en particulier aux 48 constellations ptolémaïques, donc celles qu'on connaît depuis l'Antiquité, hein, dont les 12 du zodiaque. Et à partir de ces formes, j'en ai tiré un alphabet. Et donc j'ai un langage que j'ai appelé une Jomali, le langage des étoiles. Et d'ailleurs, je suis l'un des rares auteurs à dédicacer dans ma langue. Le lecteur est obligé de lire l'ouvrage pour comprendre la dédicace.
Petite ruse, quoi, oui, comme on arrive à bien vendre son livre. Vous avez quand même remarqué que même s'il y a de la complexité et de la culture, aux extraits que je vous ai lus, c'est poétique, extrêmement limpide. Oui, oui. Ça m'a beaucoup frappé, justement. Par contre, cette contradiction, cette construction. On va terminer, parce que vraiment, sinon on va se faire disputer, on va dépasser, mais on est bien ensemble, on serait resté un bon moment. C'est vrai que c'est un thème intéressant de confronter vos visions de pays du monde. Et c'était intéressant aussi. Je ne vous ai pas placé comme ça, c'est vraiment le hasard, mais entre deux écrivains français, mais qui nous viennent d'ailleurs, qui sont devenus français, comme cette nation s'est constituée par rapports successifs, et on le sait, pas besoin de se convaincre ici, c'est notre richesse. Et puis, deux auteurs, mais bon, c'est quand même un français de fraîche date, un peu belge, quand même, c'est un peu louche, Didier Denax, on le savait bien. Et puis vous, qui êtes un amoureux de la Hongrie. Donc on voit bien qu'au travers de toutes nos histoires, de vos histoires, c'est à la fois le monde qui arrive, qui revient, quand on nous l'a dissimulé tel qu'il était, et puis c'est aussi la France qui se construit, en essayant, à travers vos romans, en tout cas certains d'entre eux, de tirer le bilan de son passé, y compris de ses combats les moins glorieux ou ses attitudes les moins glorieuses, mais aussi, ensemble, de faire comprendre au lecteur, de faire voir au lecteur la beauté du monde aussi, parce que c'est aussi ça, la réalité des êtres humains. Alors, un petit extrait avant de se quitter dans quelques minutes. Attention, glapit Docteur Port, que le choc faillit projeter par terre. Vous transportez le remplaçant du mandarin impérial, ne l'oubliez pas. C'est que la pente est raide, protesta Mine en s'épongeant le front. Vous ne pourriez pas mettre pied à terre, car nous y sommes presque. Le médecin se cala plus confortablement dans le hamac, la tête au creux de son bras. À quoi bon, fit-il bonhomme, puisque nous y sommes presque, comme vous le dites si bien. Excédés, les porteurs se remirent en marche, le pas raide et la bouche mécontente. En haut de la colline, ils s'arrêtèrent pour laisser descendre le docteur. Celui-ci effectua un petit balancement du bassin pour s'extirper avec légèreté du hamac. D'une main délicate, il défroissa sa tunique en soie grège au motif de saule et s'assura du tombé impeccable de son pantalon couleur de prune. Devant eux, la gueule béante de la grotte des mille âmes, entourée d'une lèpre noire de mousse et de lichen, s'ouvrait comme pour les happer. Un vent, né de nulle part, se mit soudain à souffler, soulevant des rondes de feuilles sèches. « Messieurs les sbires, ordonna le docteur Port en s'adressant aux deux hommes qui n'avaient pas piqué mot pendant tout le parcours, « entrez dans la grotte et revenez faire votre rapport. » « Pitié !» s'écria le premier d'entre eux, joignant ses mains en signe de supplique. « Cette grotte est maudite, vous devez le savoir. » Tous ceux qui y pénètrent terminent leur vie dans d'atroces souffrances, renchérit son compagnon, les dents s'entrechoquant de terreur. « Ce sont les démons du lieu qui viennent boire leur sang et sucer leur cervelle. » Vous voyez que dans ces enquêtes policières, dans ce monde du Vietnam du 17e siècle, les esprits sont toujours là. Comme quoi, vous voyez, le roman historique policier, finalement, a tout à fait sa place quand les esprits sont convoqués au Festival Imaginaire et quand l'histoire est convoquée avec Didier Denax. On va quand même se quitter sur un dernier extrait. Et là, je vais rassembler nos quatre auteurs. Oui, hein, j'ai bien assisté. Oh, mais j'ai fait la liaison avec un joli S que j'ai rajouté sans problème. Et donc je pars pour retraite de l'éducation nationale. Le radeau ne tarda pas à atteindre la magnifique embarcation dont le nom était peint en caractère doré sur le flanc. Les six poussières, lut Monsieur Sam avec curiosité avant de monter. Savez-vous ce que sont les six poussières? Le demanda le mandarin Tan dans la discipline bouddhiste. Ce sont les choses extérieures au corps humain qui sont en contact avec lui. La beauté, le parfum, le son, le toucher, la saveur, j'ai reconnu les cinq sens, l'imagination. Merci à vous pour votre imagination et pour vos romans. À bientôt.